carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Hugal, bonjour et bienvenue dans cette émission.
Merci.
Nous parlons ensemble aujourd'hui d'un architecte qui ne fut pas qu'architecte, il fut aussi dessinateur, caricaturiste et même peintre. Son nom est Charles Garnier. Je crois me souvenir que ce nom évoque quelque chose dans votre esprit, peut-être même dans votre cœur. Charles Garnier a été l'architecte en chef de l'opéra le plus prestigieux de Paris, l'Opéra Garnier, Opéra National de Paris, dont vous avez été le directeur pendant 9 ans. Et puis, vous avez également fait partie de l'équipe dirigeante pendant bien d'autres années. Vous allez nous raconter ça dans un instant. Cela nous fait donc un premier point commun, et puis le second n'est pas négligeable. Charles Garnier, comme vous-même, est membre de l'Académie des Beaux-Arts. Hugal dirigeait une maison qui fut si longue à réaliser, une maison qui fit couler beaucoup d'encre à l'époque, encore aujourd'hui, qui en impose autant par son aspect spectaculaire, son aura internationale. Qu'est-ce que cela représente pour vous ou a représenté pour vous ?
D'abord, c'est une mission très, très passionnante et un peu lourde que d'être directeur de l'Opéra de Paris. Alors ça l'était avant le Palais Garnier, ça l'est aujourd'hui différemment puisque l'Opéra de Paris comprend désormais 2 salles, comme vous le savez, le Palais Garnier d'une part, et l'Opéra Bastille d'autre part. Donc le fait de travailler dans un bâtiment aussi important, aussi mythique, ne simplifie pas les choses. Et en réalité, le Palais Garnier a été à la fois la source d'une gloire supplémentaire pour l'institution Opéra de Paris, qui date, comme vous le savez, de Louis XIV, mais en même temps l'a peut-être plombé. Je m'explique, c'est que, après l'inauguration le 5 janvier 1875, que tout le monde a commenté, attendu, on a regardé ce bâtiment avec émerveillement, agacement, etc. etc. Le théâtre en lui-même, le Palais Garnier, comme on l'a appelé dès ce moment-là, est devenu la raison majeure, pour longtemps, de la venue du public. Ce qui fait que les concessionnaires, puisque les directeurs de l'opéra étaient des concessionnaires, ont vécu assez heureux du motif, en réalité qui n'était pas la vraie raison pour laquelle on aurait dû aller à l'opéra. En principe, on va à l'opéra pour entendre Mozart, applaudir Gisèle et être content de la traduction scénique du répertoire. Mais là, dans la mondanité telle qu'elle découlait du Second Empire et de cette fin du XIXe siècle, et le Palais Garnier était un tel motif d'émerveillement qu'on allait à l'opéra, on payait sa place pour voir le Palais Garnier. Et l'époque n'est pas si ancienne, vous avez rappelé que j'ai été dans une première période de ma vie associé à la destinée de l'Opéra de Paris. En 69, j'en étais secrétaire général. En 1969, il y a maintenant un certain nombre d'années de cela, on ne faisait pas visiter le bâtiment dans la journée pour la bonne raison que la raison qui amenait les touristes et les spectateurs au Palais Garnier, c'était moins le Fausse du soir ou la Traviata plus ou moins bien chantée que l'on y donnait régulièrement, c'était le bâtiment lui-même. Donc si on faisait visiter pour 5 francs ou pour que sais-je un peu d'argent dans la journée le grand escalier, le grand foyer et la salle et le plafond de Chagall sur lequel, si vous voulez, on pourra revenir, eh bien nous nous coupions de notre public naturel. Ce qui avait pour conséquence, dans l'exigence artistique des productions, une espèce de laisser-aller. On pouvait dire, après tout, le public est là, quoi qu'il advienne. Et je me souviens très bien que dans ces années avant l'arrivée de Rolf Liebermann, dont j'ai été par la suite l'adjoint, l'on voyait ce qu'on n'appelait pas encore les tours opérateurs, les quarts de touristes japonais ou autres, acheter des places à l'amphithéâtre, c'est-à-dire les places meilleur marché, et échanger les tickets d'entrée à l'entracte pour que, à l'occasion de la représentation, 2 ou 3 fournées de touristes puissent visiter, voir en vitesse le grand escalier, apercevoir la salle et le fameux plafond de Chagall. Voilà, c'était donc une des conséquences négatives, il n'y en a pas eu beaucoup, de la gloire de Garnier et de son chef-d'œuvre, ça a été de créer des motifs qui n'étaient pas complètement honnêtes pour le public de venir assister au spectacle, ne pas y assister. Cela dit, être directeur du Palais Garnier, c'est une grande joie, parce qu'il n'y a que des satisfactions à travailler dans un cadre aussi beau et aussi intelligemment pensé. La scène, le rapport scène-salle, la qualité des circulations, enfin tout ce qui est pratique et ce à quoi le public ne songe pas toujours, tout ce qui est d'accueil du public, mais tout ce qui est de l'autre côté du rideau de fer et du rideau d'avant-scène, c'est-à-dire les parties de la scène, des loges, etc., sont pour l'époque où ce théâtre a été conçu, révolutionnaires et sont encore aujourd'hui des modèles. Et si l'on avait maintenu les critères qui ont été ceux de Garnier pour la construction des théâtres du XXe siècle, on aurait probablement évité beaucoup d'erreurs, notamment à la Bastille, qui est un autre sujet de conversation.
À son inauguration, l'opéra a suscité beaucoup d'émoi, beaucoup de tergiversations, parfois des reproches, des critiques, une architecture trop chargée. Est-ce que vous pensez que c'était justifié ?
On a critiqué d'abord, au moment du concours, le gagnant qui était Garnier contre un certain nombre d'architectes plus confirmés, notamment Viollet-le-Duc, vous le savez. Puis, au fur et à mesure où le chantier avançait, on a critiqué le coût de cet extraordinaire bâtiment qui venait s'inscrire dans le grand plan de rénovation de Paris que Napoléon III et Haussmann avaient conçu. Et puis est arrivée la guerre franco-russe, le siège de Paris, l'interruption des travaux, l'idée même de l'arrêt définitif de ces travaux. Mais enfin, c'était trop avancé. Comme vous le savez, l'empereur et l'impératrice Eugénie avaient inauguré la façade quelque temps avant la guerre de 70. Le bâtiment était couvert, rien n'était terminé à l'intérieur. Il a servi pendant la guerre d'infirmerie, d'écurie et de lieu de repli. Et puis finalement, la République réticente à dépenser tant d'argent pour terminer cet extraordinaire monument a été contrainte de l'achever, aidée en cela qu'elle a été par l'incendie, on va dire presque providentiel, de la salle provisoire, de la salle Le Pelletier, qui abritait l'activité de l'opéra depuis 1824 ou 25, pas loin d'ici. Alors la salle Le Pelletier ayant brûlé, il fallait absolument donner au public un lieu où se retrouver et où applaudir l'opéra. Donc l'opéra était complété, terminé, sous la direction de Charles Garnier, et inauguré finalement, avec beaucoup de retard, le 5 janvier 1975. Alors il y a eu beaucoup de critiques sur l'esthétique, sur la dépense, sur l'or qui ruisselait de partout, sur la polychromie qui était à la base même de l'esthétique de Garnier. Vous vous rappeliez les séjours de Garnier à la Villa Médicis, son voyage à Constantinople, sa passion pour les mosaïques byzantines, pour la couleur, pour la lumière. Et le Palais Garnier, c'est un bâtiment d'une polychromie voulue, assumée et d'une richesse incroyable, avec ce que nous avons restitué. Jean-Loup Roubert et Alain-Charles Perrault, les deux architectes avec lesquels j'ai travaillé pendant des années à la restauration récente du Palais Garnier, on a restauré non seulement la façade avec toutes ces marbres, ces brèches, ces extraordinaires entrechocs de couleurs et de contrastes de lumière, mais aussi nous avons redoré la plupart des statuaires qui étaient à l'origine voulues pour être dorées et clinquantes. Enfin, ce que l'on a trouvé il y a 10 ans révélait aux Parisiens ce qu'avait été le Palais Garnier avant d'être noirci, comme tous les bâtiments parisiens, par la pollution de la fin du XIXe siècle. Et on voit, si on se porte vers le musée Carnavalet, on voit des témoignages, des peintures qui décrivent le Palais Garnier avec ce ruissellement d'or qui part de l'Apollon, qui est au faîte du bâtiment, jusqu'à renommées qui sont à la façade. Les nervures de la coupole avaient vocation à être dorées elles aussi. Enfin, tout ça était une espèce d'éclat et d'éclaboussement de couleurs, d'or et de lumière. Et c'est à peu près ce que l'on retrouve aujourd'hui. Pas pour longtemps, parce que la pollution se charge de calmer tout cela. Mais le bâtiment, pour parler de ce qui est essentiel à mes yeux, c'est-à-dire la qualité de l'acoustique, l'extraordinaire rapport que l'on éprouve lorsqu'on est spectateur dans cette salle miraculeuse entre ce qui se passe sur la scène, que ce soit du chant ou de la danse, avec cette fosse d'orchestre qui a été admirablement dessinée, même si elle a subi quelques modifications dans le temps, entre le spectateur et donc le spectacle qui se propose à lui, les 5% de déclinaison de pente de la scène qui sont essentiels dans la qualité de ce rapport et que j'espère on conservera éternellement, tout cela fait un théâtre unique et qui a servi de modèle pour la construction d'innombrables théâtres dont on dit qu'ils ont été plus ou moins, même très directement inspirés par Garnier, souvent moins bien réalisés et moins riches évidemment que le Palais Garnier. Où que vous alliez dans le monde, que ce soit en Amérique du Sud, en Italie et surtout dans les pays de l'Est, vous voyez des petits Palais Garnier et le théâtre que j'ai eu l'honneur de diriger à Genève. Le Grand Théâtre de Genève était totalement inspiré des proportions et de la volonté de Garnier, qui elle-même, comme vous le savez, procède, il a rendu hommage très très longtemps et de façon appuyée à son maître et à l'exemple que constituait pour lui un des chefs-d'œuvre de l'architecture théâtrale du XVIIIe siècle, qui reste le Grand Théâtre de Bordeaux, de Victor Louis. Victor Louis est à l'origine de toute la conception que Garnier a développée pour le Palais Garnier, notamment le grand escalier dont on dit à juste titre qu'il est extraordinaire et très bien. Mais enfin, si vous allez à Bordeaux, vous entrez dans le hall de l'admirable Grand Théâtre de Bordeaux et vous trouvez en germe, sans le développement que lui a conféré Garnier, déjà l'idée de ce salon d'entrée pour la société, pour accueillir le public et lui permettre de se regarder lui-même. Puis ensuite, vous avez les mêmes rythmes de colonnade, les mêmes rythmes de loge et la même idée de corbeille que Garnier, par la suite, a perfectionné dans son Palais Garnier. Il n'a pas fait que ça, mais enfin, il a fait le Palais Garnier qui était son œuvre. Il a été l'architecte en chef de Garnier jusqu'à pratiquement à sa mort. Il a été tous les matins dans ce premier entresol du Palais Garnier que j'ai bien connu et du côté de la rue Gluck, ce que l'on appelle l'architecture encore aujourd'hui, avec des bureaux qui étaient les siens. Et il y est allé, c'est de là qu'il a conçu un certain nombre d'autres bâtiments, pas beaucoup, mais il a conçu, comme vous le savez, le cercle de la librairie boulevard Saint-Germain, et puis l'autre opéra que l'on lui doit, qui a été admirablement restauré par Alain-Charles Perrault, c'est l'opéra de Monte-Carlo, dont la salle est entièrement due, dans le même esprit que Garnier, beaucoup plus modeste, en tout cas dans les proportions, que celle du Palais Garnier. Et puis il a fait beaucoup d'autres choses, mais enfin... Voilà son l'œuvre de sa vie, jeune architecte, ça a été le palais qui porte son nom et qui porte encore aujourd'hui la gloire de l'Opéra de Paris, bien au-delà des frontières.
Il est l'architecte le plus connu du 19e siècle, l'un des plus célèbres au monde. Quelle est la plus grande raison à cela, selon vous? Est-ce que c'est le talent de l'architecte en lui-même? Est-ce que c'est l'homme? Est-ce que c'est le talent, la diversité des talents?
Écoutez, d'abord, il avait du génie. Et ensuite, il a appliqué son génie à un bâtiment qui était lui-même. Vous savez, l'opéra, c'est le genre opéra, c'est un genre totalement international. Et au XIXe siècle, et au XXe siècle probablement aussi, un théâtre d'opéra, c'était le centre d'une ville. Et Paris était au centre de toute une culture et de toute une civilisation. L'opéra de Paris était un monument mythique. L'institution l'était déjà avant Garnier. Mais le génie de Garnier lui a conféré une gloire très particulière. C'est la conjonction du nom de Garnier, de son talent, de l'extraordinaire richesse de ce bâtiment, qui reste aujourd'hui encore absolument admiré à juste titre dans le monde entier, qui ont fait que, l'on peut dire que Garnier plus l'opéra, ça a fait la gloire des deux. Et ça reste, oui, probablement que Garnier, dans le 19e siècle français, reste l'un des plus grands architectes, les plus connus en tout cas, puisque son bâtiment s'est appelé très rapidement le Palais Garnier. Voilà, on l'a dans tous les papiers officiels depuis très 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 longtemps. Désormais, il y a l'Opéra Bastille, on n'aurait pas l'idée d'appeler le Palais Haute, qui est le nom de son, pourtant de son architecte. Le Palais Garnier est là depuis maintenant plus d'un siècle. Depuis même.
Pourquoi, selon vous, c'est le premier opéra à porter le nom de son architecte?
Ce n'est pas le premier opéra à porter le nom de son architecte. Il y a Dresde, un opéra magnifique qui est dû à un des grands architectes prussiens et enfin allemands du début du 19e siècle, qui s'appelait Zemper. On l'appelle Zemperoper, l'opéra de Zemper, l'opéra de Dresde. Donc ce n'est pas le seul théâtre au monde à porter le nom d'un architecte. Mais enfin, le Palais Garnier, peut-être parce que Paris, peut-être parce que, voilà, et sans doute à cause de cette extraordinaire richesse et de ces volumes tout à fait exceptionnels, de l'émoi qu'il a suscité dans le monde entier au moment de son inauguration, dans un faste inouï, etc., dépasse les autres théâtres en notoriété sur le plan du bâtiment. Je ne veux pas dire que l'Opéra de Paris, que j'ai eu l'honneur de diriger longtemps, soit le meilleur opéra du monde. Il l'a été par moments, il l'est peut-être encore aujourd'hui souvent. Mais le bâtiment, lui, est sans aucun doute le bâtiment le plus célèbre.
Pour revenir à l'opéra et à son intérieur, y a-t-il une pièce de peinture que vous appréciez particulièrement au sein de l'opéra?
Vous savez, ce que j'ai beaucoup admiré, il y a le plafond de Chagall qui est une incongruité, disant les choses comme je les pense, et Malraux, voulant témoigner de son intérêt pour son ami Chagall, lui a confié le soin de peindre ce plafond qui vient là-dedans comme les cheveux sur la soupe, pour parler trivialement, parce que l'œuvre de Garnier n'est pas l'œuvre que de Garnier, c'est l'œuvre de son équipe, de tous ses amis, de tous ses compagnons, de tous ceux avec lesquels il avait travaillé à la Villa Médicis. C'est l'œuvre de Carpeaux, c'est l'œuvre de Baudry, c'est l'œuvre de Carrier-Belleux, c'est l'œuvre de le moindre bouton de porte, la moindre sculpture a été voulue, contrôlée par Garnier, mais c'était le fait d'une équipe extraordinaire. Alors, d'avoir voulu recouvrir le plafond de Le Neveu, qui était un excellent peintre, académicien, etc., directeur par la suite de la Villa Médicis, par le plafond de Chagall, dont les mérites ne sont pas en cause, encore que honnêtement ce ne soit pas le meilleur Chagall, tant s'en faut, mais dont les couleurs tellement crues viennent vraiment jurer dans l'harmonie un peu plus douce des ors et des pourpres de Garnier. Je trouve que, bon, alors laissons de côté, si vous le permettez, le plafond de Chagall, qui est néanmoins maintenant absolument indissociable de l'œuvre de Garnier, même si elle est un peu comme le coucou, s'est logé dans ce chef-d'œuvre totalement cohérent. Il y a, pour moi, le grand plafond du grand foyer, qui est dû à Paul Baudry, qui est un très très remarquable, un grand peintre du XIXe siècle, qui a peint ce plafond, comme Michel-Ange a peint la Sixtine, et que j'ai des raisons d'aimer particulièrement, parce que j'ai obtenu du gouvernement, il y a quelques années, des fonds considérables pour restaurer l'ensemble du Palais Garnier, et qu'une des dernières choses que j'ai pu faire avant de quitter l'Opéra, c'était la restauration du grand foyer, notamment avec des échafaudages que vous imaginez, la restauration du plafond de Baudry. Et en m'approchant, comme d'aucuns se sont approchés de la fresque de Michel-Ange, ou plus récemment de celle de Lebrun dans la Galerie des Glaces à Versailles, on est ému de voir la touche encore presque fraîche du pinceau de Baudry et cette extraordinaire organisation de l'espace, des teintes. Enfin, c'est un admirable travail de peinture et c'est probablement un des plus beaux plafonds peints qui existent. Alors Paul Baudry, vive Paul Baudry, je ne dirais pas Bachagal qui était un immense artiste, mais enfin, dont je pense qu'il ne trouve pas sa place heureuse, en tout cas au Palais Garnier.
Est-ce qu'il est dur de diriger un opéra tel que l'Opéra Garnier? Est-ce que c'est écrasant? Est-ce que c'est plus dur qu'un autre établissement, qu'une université par exemple?
Écoutez, je n'ai jamais eu l'occasion de diriger une université. Ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas Garnier qui a ajouté la difficulté de la tâche de directeur de l'opéra, certainement pas. Le fait d'être directeur d'opéra, c'est un métier pas plus difficile qu'un autre, en tout cas c'est un métier. Le fait de l'exercer en France et à Paris particulièrement, oui, ça c'est la difficulté. Alors avec Garnier ou sans Garnier, je vous assure que il n'est pas facile de diriger 2000 personnes qualifiées, remarquables, artistes, artisans, etc., auxquels je rends tous les hommages qu'on leur doit et qui sont la vraie raison de diriger un opéra, ce sont tous ces artisans, c'est ces 2000 personnalités très fortes qui concours à la réalisation des spectacles, mais bon, ça doit être plus facile, j'ai des raisons de penser que c'est plus facile de diriger un opéra ailleurs qu'à Paris. Alors, c'est pas Garnier qui complique la tâche.
Nous terminons, Monsieur Gall, sur une phrase de Charles Garnier qui accueillera peut-être un commentaire de vous. « Il n'y a pas à choisir entre les arts, il faut être dieu ou architecte. » Était-il mégalo ?
Non, mais enfin, c'est un mot comme on peut en prêter, vous savez. Victor Hugo disait être Chateaubriand ou rien, bon, lui disait être Dieu architecte, c'est un peu la même chose si l'on pense que la divinité, imaginons qu'elle existe, je veux bien croire que c'est le cas, doit organiser l'espace et la lumière et la façon dont vivent les gens à l'intérieur, oui, peut-être que c'est comme ça qu'il faut dire. Je prends ça comme une boutade, on peut la retourner dans tous les sens, ce sont ces mots qui veulent tout dire ou le contraire.
Merci beaucoup, Monsieur Gall.